Eh bien, nous avons prié pour cette sœur, elle s'appelle Ginette, c'est cela? Ginette, qui s'est cassé un bras, nous avons prié pour elle. Seigneur notre Dieu, tu es tout-puissant, nous le savons, et nous confessons notre foi devant toi, devant les anges, devant aussi les esprits mauvais, et nous confessons que notre sœur peut recevoir sa guérison maintenant, parce que tu as tout accompli à la croix. Au nom de Jésus-Christ, que les os, les choses qui ont été brisées se remettent rapidement en place, et que notre sœur ne souffre plus. Nous chassons et nous lions tout esprit de souffrance, de douleur. Quittez ce corps maintenant, que notre sœur puisse dormir, être tranquille, et que sa guérison germe promptement, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, on est revenus. Avec la Michon, en fait, on vient d'arriver de Suisse, où nous étions pour une rencontre avec les élèves de la classe 1962. C'est-à-dire que ça faisait, pour la plupart, je ne les avais pas revus depuis 50 ans. Est-ce que vous y pensez? 50 ans, c'est pas rien. Et ben voilà, c'était très spécial. C'était vraiment émouvant. Il y en a, on se reconnaissait pas. Il y en a, on n'arrivait pas. Et mais c'était petit à petit. Les langues se déliant, on a retrouvé des expressions, des trucs, et c'est revenu. Mais ça fait drôle. Hein. T'imagines, j'avais ton âge, Lucas, quand j'ai quitté cet endroit. Et voilà, tout d'un coup, 50 ans après, je retrouve mes... C'est comme si tu retrouvais tes copains 50 ans après. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Voilà, ils n'ont pas tous très très bien vieilli. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui se sont produites, mais avec Michou, on a eu l'occasion d'aller faire plusieurs visites après. Et on a vu 4 personnes se convertir, hein, et puis 2 personnes être guéries. Alors c'est merveilleux. Il y a eu, enfin, voilà, c'est magnifique. Gloire à Dieu, on est content. Et puis il va y avoir encore d'autres choses, puisque nous avons apporté là-bas des oracles. Chacun a eu un oracle, la brochure miracle, plus une vidéo que j'avais montée avec l'aide de Franck. Et je pense que ça va toucher les cœurs. Enfin, pour le moment, on attend. Normalement, au mois d'août, quelques-uns peut-être vont venir, ils ont dit. En tout cas, on va voir ça. On va voir ça. Bien, autrement, on a vu les Brugères, on a vu les Crozats, on a dormi 2 nuits là-bas chez les Crozats. On a vu qui encore? On a vu mon frère, on a mangé là-bas, c'était bien, dehors. C'était sympathique et puis c'était des bons moments. On a passé une semaine vraiment bien remplie, puis on n'a pas arrêté de courir chez les uns, chez les autres, pour parler, pour prier, et c'était très bien. Je vous invite à lire ce soir Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24. Jésus dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous pouvez vous asseoir. Toute cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler à plein de personnes et j'ai réfléchi sur ce sujet. Mais qu'est-ce que Jésus attend réellement de moi? Qu'est-ce que Jésus attend réellement de nous qui sommes ses enfants? Bon, nous savons que sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Ça, c'est certain. Mais la grâce de Dieu nous appelle à quelque chose. On ne peut pas rester comme ça en disant, voilà, j'ai la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que j'ai toujours la grâce de Dieu? Bien sûr que la grâce de Dieu, hein, comme je dis toujours... Pour le moment, Jésus est notre sauveur, il est gracieux, plein de miséricorde, mais un jour, eh bien, il nous appellera en jugement. Et vous avez remarqué dans le texte qu'on vient de lire, ceux qui sont sous la grâce ne sont pas forcément à l'abri de toutes sortes de tempêtes, de pluies, de difficultés, mais celui qui est fermement sur le roc, eh bien, il est solide, il ne s'effondre pas. La grâce de Dieu nous appelle à un devoir sacré. Et elle ne nous libère absolument pas de nos responsabilités. Souvenez-vous de Jésus qui enseigne qu'on doit construire sur le roc. Alors évidemment, Nous avons cette responsabilité, c'est de construire. Et de construire sur le roc. Et nous savons, en étudiant les Écritures, que le roc, c'est la révélation. Vous êtes d'accord? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il est en train de lui dire, tu es Pierre, tu es Monsieur Pierre, mais sur la pierre de la révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église. Et c'est sur la révélation de qui est Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu qui est venu en chair pour payer le prix afin de nous racheter. C'est sur la révélation de qui nous sommes, nous, ses fils et ses filles. À partir de là, sur ce fondement, eh bien, nous avons à construire. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi. On peut lire dans 1 Corinthiens 3, 12, 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, le grand jour du jugement, hein, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, on a le fondement, mais maintenant, comment est-ce qu'on construit? Si vous avez le fondement, la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a payé pour vos péchés, que vous avez l'assurance de votre salut et que vous savez que vous êtes un fils, une fille de Dieu, maintenant il faut construire. Alors on peut construire avec toutes sortes de matériaux, avec du chaume, avec du bois, avec des pierres, avec des pierres précieuses, avec de l'or, on peut. C'est à nous, n'est-ce pas? Dieu se cherche, la Bible nous dit, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et notre comportement, il doit donc être spirituel. Parce que la louange, ce n'est pas simplement blablabla bla, 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 le dimanche matin au culte, mais c'est nos actions. C'est-à-dire, ce sont les normes du royaume non matériel. Les actes d'un chrétien, c'est des actes qui sont selon les normes du royaume non matériel. Je parlais avec un de mes anciens copains d'école, et il me disait, « Oh, mais moi je fais le bien, moi. » Hein, j'invite des amis, je leur sers un verre. Oui. Hein? Et je fais le bien. Bon, voilà. C'est terrible. C'est terrible. Selon les normes du royaume de Dieu, pas selon ce qu'on pense qui est bien. D'ailleurs, je suis certain que offrir un verre dans cet endroit-là, c'était pas forcément bien. Il y avait qu'à voir la tête de la plupart de ceux qui sont rentrés à 11h du soir. Heureusement qu'il n'y avait pas d'alcootesse dans le coin. Mon Dieu, j'espère qu'ils sont... Non, je crois qu'ils sont tous rentrés sains et saufs. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un pays vigneron. Hein. C'est selon les normes du royaume non matériel. C'est-à-dire selon les normes spirituelles. Ce qui est matériel, ça brûlera. Et nous devons construire donc de façon spirituelle dans un monde matériel. C'est-à-dire que notre vie doit être remplie d'actes spirituels. C'est-à-dire remplie d'actes qui correspondent à ce que Dieu veut. Vous pouvez faire des tas d'actes, hein, Jésus le dit, vous pouvez distribuer tous vos biens, vous pouvez faire de l'humanitaire et tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas ce qui est la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'amour, vous allez me dire, oui, mais si je donne, c'est parce que j'aime. Non, pas forcément. Peut-être vous donnez parce que vous voulez acheter votre ciel, ou je ne sais pas moi, on ne donne pas forcément par amour. Alors nous sommes appelés à construire notre vie sur les bases de la vérité. Alors qu'est-ce que c'est la vérité? Il y en a un autre qui a posé la question, hein, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a 2000 ans, la vérité, elle s'est incarnée. La vérité, c'était Jésus. Ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, notre vie doit être à l'image de ce qu'a été Jésus. Aujourd'hui, la vérité doit être incarnée de nouveau, elle doit être vraie, notre vie doit être vraie, doit être authentique. Dieu ne peut pas recevoir d'autre chose que ce qui est spirituel et vérité. Il ne peut pas recevoir autre chose que ce qui est spirituel et vrai, authentique. Si notre vie est réellement consacrée à Jésus-Christ, notre vie consiste en actes plus qu'en paroles. Et si c'est vraiment le cas, notre vie, elle est au calme, elle est dans une constante communion avec Dieu. On ne demande pas de temps en temps à Dieu de venir, on ne s'attend pas à sentir sa présence de temps en temps, on ne croit pas qu'il y a des onctions spéciales qui nous arrivent et qui sont plus fortes que la sainte présence de Dieu qui est avec nous tout le temps. On est dans une constante communion avec Dieu, dans le calme et la confiance. Rien n'ébranlait Jésus, rien ne doit vous ébranler. La maison, si elle est solide sur le roc, elle n'est pas ébranlée. Mais évidemment, si elle est construite en chaume, vous connaissez l'histoire des petits cochons, tout le monde la connaît. Ils ont construit des petites maisons, celle qui était en chaume, vous avez vu. Tel il est, la Bible nous dit, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si il était la vérité quand il était sur cette terre, c'est ce que nous devons être, c'est-à-dire vrai, authentique, mais selon les normes du royaume de Dieu, pas selon les normes humaines seulement, bien qu'il y en ait des bonnes de normes humaines. Il était Dieu dans un corps d'homme et c'est ce que nous sommes si réellement Christ vit en nous. Hier soir, nous étions avec notre frère Arthur Alamand, il nous a emmenés dans un restaurant magnifique qui se trouve à côté du mur de la Réforme. Vous savez, à Genève, c'est très beau, j'ai fait des photos, je vous montrerai. Et il me disait, mais toi, quand on bouge, comme Christ est en moi, eh ben quand je bouge, c'est Jésus qui bouge. Vous savez, vous connaissez le frère Arthur, comme il est enthousiaste avec les choses de Dieu, il aime tellement Jésus. Eh bien voilà, si réellement Christ est en nous, eh bien, il est ce qu'il était sur la terre, nous le sommes. Si c'est Jésus qui vit en nous, il agit par nous, et cela, ça n'a pas grand-chose à voir avec de la religion. Ça n'a plus grand-chose à voir. Jésus, il n'a pas eu une vie facile. Il y a aussi des tempêtes qui se sont élevées contre lui. Et c'est alors qu'il était, par exemple, sous le poids des préjugés qui se dressaient contre lui, sous le poids de la bêtise et de la méchanceté humaine, qu'il s'est écrié « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous voyez ? Donc lui, malgré le fait qu'il était menacé de mort, qu'il était haï par toutes sortes de gens, même des gens soi-disant spirituels, eh bien, il était dans le repos, sinon il ne nous aurait pas dit « Venez, je vous donnerai du repos », s'il lui-même n'en avait pas. Il était déjà, lui, dans le repos, quoique sachant qu'il allait bientôt mourir d'une façon abominable. Donc, lorsqu'on vient vraiment à Jésus, qu'on conforme notre vie à sa vie, à la vérité, à lui, alors notre spiritualité, elle réprouve la nullité des nuls. Et c'est ça le conflit. Quand on est vraiment, quand on conforme notre vie à sa vie, c'est-à-dire à la vérité, qui est lui, alors notre spiritualité réprouve la nullité de ceux qui se vantent d'être sages et qui sont devenus fous. C'est-à-dire qui sont matérialistes. C'est-à-dire, jusque dans leur religion, c'est la matière qui compte. C'est des sentiments charnels qui comptent, c'est des émotions, ça c'est du matériel. C'est pas ça qui compte. Faut pas mélanger, beaucoup de personnes pensent que c'est spirituel alors que ce n'est qu'émotionnel. Bien sûr c'est agréable à nous, mais est-ce que c'est agréable à Dieu? Moi je peux être ému en écoutant une pub, en regardant une pub à la radio, à la télévision, je suis très émotif. L'autre jour, on a été dans cette réunion d'anciens élèves. Ben, le lendemain, j'avais mon foie qui me chatouillait parce que comme je suis émotif, voilà. Les émotions. Ben, il n'y avait rien de spirituel là-dedans, c'était des émotions. Et alors, il ne faut pas que notre culte soit un culte émotionnel, mais spirituel. Je ne veux plus, mes frères et sœurs, vraiment sérieusement, je le dis, je l'ai écrit et je le redis, je ne veux plus qu'on dise de moi que je suis un chrétien. Non. Je suis un disciple de Jésus-Christ et je m'efforce à me discipliner. Parce que celui qui discipline sa vie à devenir conforme à la vie du maître, celui-là devient puissant. Et c'est ce que je veux, être puissant en acte comme il était puissant en acte. C'est ça mon ambition. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi ton ambition? Ben, mon ambition, c'est pas d'avoir une grande église de 10 000 membres. Mon ambition, c'est pas d'avoir des foules de 100 000, 200 000, 300 000. Bien sûr, je serais content si j'avais ça. Mais c'est pas mon ambition. Si ça doit venir, ça viendra. Mais c'est pas ça, mon ambition. Mon ambition, c'est de devenir puissant comme lui, il était puissant. Il n'avait pas une église de 10 000 membres. Un disciple, il veut et il désire faire les mêmes choses que son maître. Quand son maître était sur la terre. Et quelle joie de pouvoir faire comme il a fait. Quelle joie de voir cette grand-maman l'autre jour qui nous dit que depuis 70 ans, parce que je viens de Suisse, c'est 70 ans, maintenant ici en France, c'est 70 ans, elle souffrait d'une oreille quand elle entendait des bruits aigus, ça lui faisait mal jusque dans toute la mâchoire. Et là, elle me dit, ah, ben dis donc, ça part. C'est pas extraordinaire? Une grand-maman qui a 90 ans. Et des choses comme ça aussi, de la peau qui repousse, un escarre et des choses. Ça, c'est une joie de pouvoir faire comme il a fait, parce qu'on est comme il veut qu'on soit. Ça, c'est magnifique. Sinon, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est des pouvoirs magnétiques. Ça, c'est naturel. Mais ça n'est pas spirituel. La grâce oblige à l'action, à une construction spirituelle et vraie. Je veux des adorateurs en esprit et en vérité. Pas à une construction sur des sables mouvants, c'est-à-dire sur des émotions ou sur même des doctrines. Parce que les doctrines, c'est mouvant. C'est comme le sable. Vous n'arrivez pas à les tenir dans les doigts. Vous allez voir un tel, il va vous dire c'est comme ça, l'autre va vous dire c'est autrement, et pourtant ils prennent les mêmes textes, c'est très mouvant. Alors, quand je lis les actes des apôtres, je ne lis pas les doctrines des apôtres, je lis les actes des apôtres. Les actes des apôtres, qu'est-ce que je vois dans les actes des apôtres? Je vois des vies changées, je vois des corps guéris, je vois des possédés délivrés, je vois des pauvres qui sont enrichis. Oui, c'est ça. Et aucune doctrine n'a le pouvoir de produire ça. Pourtant, Jésus avait une doctrine, mais c'est pas sa doctrine qui produisait ça. Vous voyez? La vie d'un disciple de Jésus doit être une preuve, non pas des rites ou une doctrine ou des doctrines plus ou moins élaborées. Non. Ça doit être une preuve de quoi? Ben, que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la vérité. C'est-à-dire, il est le fondement de la pensée vraie. Il est le fondement de l'action juste. Quand on lit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, alors on pense, voilà, il ne faut pas prier avec les autres, il faut prier tout seul dans son coin, là, dans sa maison, au pied de son lit. Ça, c'est matériel. Ce que Jésus veut dire par là, c'est quand tu veux prier, entre en toi-même la maison. Et puis ensuite, ferme la porte, tes lèvres. Parce que tes mots trahissent ta pensée. Prie en pensée. Ça veut pas, mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier avec des paroles. Mais les prières les plus belles qui montent vers le cœur de Dieu, c'est des prières qui sont en esprit, pas avec des paroles. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. Moi, enfin, en tout cas, je suis comme ça, je ne sais plus quoi dire quand je prie. Par contre, quand je prie en esprit, alors là, ça, c'est, je peux rester longtemps comme ça, simplement en communion constante avec mon Dieu. Et c'est ça qui doit être établi. Ça, si ça n'est pas établi, il faut que ça soit rétabli en nous, sur la base de la personne divine qui est Jésus-Christ. Alors, ils ont rejeté la pierre de l'angle, c'est normal qu'ils nous rejettent. Bon, si nous sommes rejetés parce qu'on a mal agi, on pourrait dire, c'est bien fait. Oui, mais en fait, ceux qui nous rejettent parce qu'on a mal agi, ils ont tort parce qu'ils ne doivent pas le faire. D'accord? Or, et par contre, si ils nous rejettent parce que nous sommes et nous faisons comme Jésus faisait, ben ils ont tort aussi, donc ils ont tort tout le temps. Vous allez me dire, oui, mais Jésus rejetait-il vraiment personne? Non, tant qu'il était sur cette terre, il rejetait personne. Personne. Par contre, il évitait certaines personnes. Des personnes nuisibles, il les évitait. Des personnes qui pouvaient lui faire du mal, il les évitait. Je parlais avec un frère, je disais, je te prie, mon cher frère, d'éviter un tel. Il te nuit, tu es en dépression. Parce que, évite cette sorte de personne, il te ronge, il te nuit. Jésus évitait certaines personnes, Jean 8, 59, Jean 12, 36. Nous devons agir comme il agissait, prudent, pas rejeter, mais éviter certaines personnes jusqu'à ce que ce terrain pierreux qu'ils sont, ou ce terrain épineux qu'ils sont, change. Alors là, après, c'est différent, mais en attendant, il faut éviter. Pensez-y, Dieu est infini. Et il est venu dans le corps d'un homme fini. Un corps, c'est quelque chose qui est fait. Hein? Donc il s'est limité, il est venu limité momentanément. Mais maintenant, il est retourné, n'est-ce pas, dans son illimitation. Et aujourd'hui, par son esprit, c'est en nous qu'il vit. Il est venu en nous, pas pour créer ou animer des clubs religieux, pas du tout. Il est venu en nous pour agir comme il agissait, pour enseigner les gens comme il agissait, comme il enseignait autrefois. Il enseignait les gens à agir selon la vérité et spirituellement. Et il veut qu'on fasse la même chose. Il n'y a pas de contradiction en Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est spirituel. Dans le spirituel, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de dualité. Il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu parce qu'il est esprit. La contradiction, elle est dans la création. Sa matière, entre guillemets, elle est spirituelle, c'est-à-dire non limitée. Et on est appelé à agir de façon de moins en moins limitée. C'est ça faire des progrès. C'est ça faire des progrès. Alors, ne lui demandez pas de venir puisqu'il est déjà là. Il est illimité. Ne lui demandez pas de vous sauver parce qu'il l'a déjà fait. Ne lui demandez pas de vous pardonner parce qu'il l'a déjà fait. Ni de vous guérir parce qu'il l'a déjà fait. Ni de vous protéger parce qu'il le fait constamment. Il est toujours avec vous. Il ne souffre pas d'un ramollissement de la bulbe. Il ne souffre pas d'un ramollissement de la mémoire. Il connaît ses devoirs envers chacun d'entre nous. Et nous, est-ce que nous connaissons, c'est ça le problème, est-ce que nous connaissons nos devoirs envers lui? Cessez de lui demander de vous bénir. Vous êtes déjà béni. Par contre, cessez de lui demander de bénir ce qu'il ne peut pas bénir. Il y a des choses qu'il ne peut pas bénir parce qu'il les a maudites. Ne mêlez pas Dieu à vos erreurs en espérant qu'avec le temps, vos erreurs deviendront des vérités. Jésus vit en vous, mais vous ne pourrez jamais arriver à une juste conception de son caractère divin si vous aimez la contradiction. C'est ça que les gens aiment, ils aiment la contradiction. Ils n'aiment pas la vérité. Je ne veux pas dire qu'ils aiment le mensonge, mais ils aiment la contradiction. Et il y en a tellement des contradictions dans cette façon. Il y a tellement de possibilités de gens qui ont inventé des façons de vivre le christianisme. Jésus doit être notre modèle, et mes frères et sœurs, notre modèle ne change pas. Il ne peut pas être à un moment comme ceci, à un autre moment comme cela. Il ne change pas. S'il se met à changer notre modèle, alors comment est-ce qu'on peut faire confiance ? Comment on peut faire confiance? Comment est-ce qu'on peut être croyant et illogique? On ne peut pas. Il y a une base de logique, il y a une base qui ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Tous les chrétiens croient, par exemple, que Dieu est omnipotent, et pourtant ils n'arrêtent pas de le limiter. Écoutez comment il parle, écoutez ça. Par exemple, j'entendais parler d'une personne qui a été aidé une autre personne. Et en aidant cette personne, elle a attrapé froid. Alors, qu'est-ce que ça signifie, elle a attrapé froid? Si la maladie vient de Dieu. Hein? Ça veut dire que quelque part, Dieu l'a puni? Non. Et pourtant, combien de gens pensent ça? Moi, j'ai entendu l'histoire d'un... C'est encore plus grave, là. C'était un homme, un pasteur, qui roulait, et tout d'un coup, il a vu un accident devant lui, il a parqué sa voiture, il allait porter secours aux gens qui étaient dans la voiture accidentée, et là, il s'est fait tuer par une voiture qui est arrivée. Ben, des gens ont jugé en disant, on ne peut pas mourir d'une mort violente comme ça quand on est un véritable chrétien. C'est de l'illogisme. Alors, Dieu nous dit de faire le bien, on va faire le bien, on va aider une personne, on sent de l'aide, on attrape froid, alors c'est quoi? Dieu nous punit parce qu'on s'est exposé au froid, parce qu'on n'a pas été censé, on aurait dû se couvrir, on n'a pas eu le temps, il fallait l'aider, alors il est allé. Et puis après, dans la vie future, il va le récompenser d'avoir aidé la personne. Ça ne tient pas debout, c'est de l'illogisme. Dieu nous récompense dès tout de suite. Mais il faut simplement croire ça. Il faut simplement croire ça. Quand j'écoute, je me dis qu'il y a des milliers d'absurdités qui sont crues, des milliers, des non-sens, de l'illogisme. Et mes frères et sœurs, nous avons été sauvés par grâce. Et nous sommes en train de travailler à notre salut. Ça n'est pas illogique. En assumant la responsabilité de nos pensées et de nos actes, l'esprit et la vérité. en nous reposant, mes frères et sœurs, je le répète, nous sommes en ce moment en train de travailler à notre salut en assumant la responsabilité de nos pensées et nos actes, en nous reposant non pas sur le Seigneur, qui a déjà tout accompli, mais sur les règles qu'il a données. Ah, c'est très différent. Sinon, c'est illogique. La faute ne peut pas venir de lui. Si on ne met pas en pratique les règles, on ne peut pas s'attendre à se reposer sur le Seigneur pour qu'il transforme nos bêtises en quelque chose de bien. Vous voyez? Vous comprenez? Et alors après, on s'invente des théologies de maladies, de machins, de trucs, des théologies fausses, des erreurs. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est pas s'appuyer sur le Seigneur, mais c'est s'appuyer sur les règles qu'il nous a données. Si on ne s'appuie pas sur les règles qu'il nous a données, le Seigneur n'est tenu à rien vis-à-vis de nous. Dimanche, j'ai continué sur cette lancée, et je n'ai pas à prouver que j'ai la foi, j'ai déjà démontré souvent par des actes, mais maintenant ce que je veux, c'est prouver que la foi, elle est gérée par la logique. J'en ai marre d'entendre que la foi, c'est quelque chose un peu, vous savez, comme les trucs qu'on met aléatoires, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre exactement, c'est aléatoire. Je veux prouver que la foi, elle répond à des règles, que c'est une science. Il y a une science spirituelle. La Bible parle de ça en disant c'est la science des mystères de Dieu. C'est des mystères pour ceux qui périssent, mais ça ne doit pas demeurer des mystères pour nous. C'est demeurer des mystères. Ils ont tellement brouillé les choses, et puis ensuite il y a eu la réforme, mais il y a plein de mystères qui sont restés encore des mystères, et puis ensuite il y a eu Dieu a révélé encore des choses, mais il y a encore des choses à révéler parce qu'il y a encore trop de nébuleuses et trop de brouillard et pas assez de compréhension sur beaucoup de choses. Et maintenant, il faut que la lumière soit. Il ne faut pas penser, voilà, tout ça, il n'y a pas une science de la foi. Non, 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 non. Parce que les anciens l'ont dit. Les anciens, avant, ils disaient que pour pouvoir être sauvé, il fallait payer des indulgences. Après, ils ont dit, c'est par la foi. Après, ils ont dit, oh, la sanctification. Après, ils ont dit, ah, le baptême d'eau. Ils évoluent. Nous devons évoluer, nous aussi. Et ne pas simplement nous reposer sur la foi, mais sur les règles établies par Jésus. Et ce sont des règles logiques. Il y a une science des mystères de Dieu. C'est ce que j'ai sur le cœur en ce moment, c'est ce que je veux enseigner, parce que je vois que le peuple de Dieu souffre à cause de l'illogisme. Alors la question que je posais il y a quelques mois en arrière, c'est êtes-vous enseignable? C'est-à-dire, êtes-vous prêt à accepter de changer la façon de penser? C'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes prêt à accepter la façon de changer de penser? Ça, c'est tout le monde veut changer, mais quand il faut vraiment le faire, ah, c'est autre chose. Tout le monde veut apprendre. On dit, ah oui, moi, je veux apprendre, mais quand ça coûte quelque chose, notre propre façon de penser, oula. Alors, il faut que vous mettiez dans la prière, que vous prépariez vos cœurs d'ici dimanche, et je vous enseignerai le début de ces choses, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à bien comprendre afin que nous soyons des témoins fidèles dans ce monde. Il y a peu de temps. Très peu de temps, je crois, comme disait Alain pendant qu'il dirigeait les chants. On arrive vraiment au bout, vraiment au bout. Je ne dis pas la fin du monde selon Maya et compagnie, mais le retour de Jésus-Christ dans les airs, premièrement pour l'enlèvement. Amen. Et en attendant, eh bien, c'est ceux qui vaincront, ceux qui tiendront jusqu'au bout. Comme tu disais Alain, il faut tenir jusqu'au bout. Et le bout, il n'est pas loin. On va y arriver, on y touche au but. Vous vous rappelez de cette histoire de l'homme qui avait une mine d'or et il creusait depuis des mois, et ne trouvait rien. Et un jour, il a eu ras-le-bol, il a jeté la pioche et puis il est allé vendre sa mine. L'acheteur, le premier coup de pioche qu'il a donné, c'était le minerai qui était là, c'était l'or. Il était à un coup de pioche. Et nous savons pas, c'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain. En tout cas, c'est pas loin. Alors tenons ferme. Perfectionnons-nous afin de pouvoir être un témoignage vivant, comme Jésus était un témoignage vivant. Amen. Merci Jésus de nous y aider. Merci de nous fortifier afin que nous puissions y arriver, que nous soyons toujours fermes dans la foi, dans cette logique qui est la tienne, dans la vérité spirituelle au nom de Jésus-Christ mon Dieu. Amen. Amen. Amen.